L'association Urbegi d'Ustaritz organise une animation singulière dans les cimetières paysagers de Jacsou et d'Asparin le mardi 24 octobre. Nous sommes avec l'artiste sculpteur sur pierre Régis Pochelu. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes originaire d'Asparin et vous êtes sculpteur de métier, c'est ça?
C'est ça.
Et vous vivez, je crois, du côté de Mendionde.
Je suis d'Asparin, je vis à Asparin, mais c'est mon atelier qui est à Mendionde. Je suis installé au château de Garoua.
Voilà, donc...
bien 8 ans maintenant.
Donc un magnifique château qui a été rasé au XIIIe siècle par les troupes anglaises et qui a été reconstruit au XIVe siècle, si je ne me trompe pas.
Bravo. C'est ça.
Alors Régis Pochelu, que va-t-il se passer le 24 octobre prochain? Ce sera dans des cimetières, les cimetières paysagers de Jacsou et d'Asparin.
C'est ça. Alors en fait, dans mon activité, dans mon métier de sculpteur sur pierre, hein, c'est vrai que je travaille pour des collectivités, pour des particuliers, et également, c'est un aspect essentiel pour moi, en tout cas dans notre culture, c'est l'art funéraire, puisqu'on est un des rares peuples à avoir conservé une spécificité sur ce domaine depuis la proto-histoire. Donc cette volonté aussi de le faire vivre et de le faire avancer, c'est-à-dire d'essayer de tourner vers l'avant pour continuer de le créer en ce sens. C'est vrai que dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de réaliser plusieurs espaces cinéraires au labour sur plusieurs villes. Et lorsque Sean Hérotaber est venu me voir et m'a demandé je pouvais lui proposer une idée pour mener une réflexion, on va dire, pour parler en tout cas de cet espace, des espaces cinéraires et puis aussi de l'évolution de cet art. Je lui ai proposé, puisque de toute façon, les gens circulent et vont venir jusqu'à Jacsou, puisque l'idée était de partir de là, de faire un genre d'exposition, d'ambulation itinérante. C'est-à-dire que d'accueillir les gens sur Jacsou, se servir de ce lieu, puisqu'il y a quand même pas mal de références, pas mal d'éléments de notre histoire, que j'ai essayé de réemprunter, on va dire, et de traduire de manière contemporaine pour le faire vivre et pour le faire avancer. Donc, faire l'ambulation de cet espace-là, et ensuite de se suivre en voiture, en cortège, et aller jusqu'à Asparin, poursuivre et finir cet après-midi sur la visite de l'espace cinéraire d'Asparin, sur lequel également il y a en complément d'autres éléments cinéraires liés à notre histoire et qui ont été réalisés et installés là. Voilà l'idée.
Donc ça, ce sera donc le 24 octobre à partir de 14h30, je crois, à rendez-vous au cimetière de Jacsou, c'est ça?
C'est tout à fait ça, oui, c'est ça.
Puisqu'on a la chance d'avoir un sculpteur sur pierre, d'abord, comment vous est née cette vocation de sculpter la pierre?
Ouf, vaste sujet, alors je vais essayer d'écourter. Pour résumer, je dirais que c'est le besoin de creuser. Parce que dans mon parcours d'homme, j'ai eu besoin de, comme beaucoup, creuser un petit peu pour comprendre mon histoire, d'où je viens, qui je suis, etc. Et ce moment-là correspondait vraiment avec un moment où j'ai rencontré le minéral, dans l'occurrence la pierre. Et donc, c'est métaphoriquement, bien entendu, je l'ai compris après, mais ce besoin de creuser, puisque lorsque j'ai terminé un mur en pierre que j'étais en train de faire à ce moment-là, eh bien, à la fin de ce mur, j'ai eu besoin d'aller continuer à graver et à creuser dans cette pierre qui apparaissait. Et en fait, là, le lien s'est fait tout seul, quoi. C'est-à-dire besoin de creuser, voir ce qu'il y a derrière ou dedans. Ça dépend comment on voit la chose. Mais c'est vraiment ce besoin qui m'a amené à finalement tout arrêter mes autres activités pour me consacrer uniquement à la sculpture sur pierre qui me prend totalement et vraiment de manière extrêmement puissante.
Quand on cherche un peu sur Internet, on trouve des éléments sur votre parcours et la liste quand même de vos réalisations est assez impressionnante. Alors, on ne va pas toutes les dire, mais vous avez travaillé en 2013 au cloître de Bayonne, 2010 à la salle capitulaire de l'abbatiale de Saint-Savin dans les Hautes-Pyrénées, en 2006 à la benoîterie de Saint-Pierre-d'Irube, en 2010 à la poudrière à Bayonne. Vous avez également fait le linteau du château des Barons d'Espelette en 2007. D'où vient l'inspiration pour toutes ces œuvres?
Eh bien, c'est vrai que dit comme ça, ça paraît évidemment grand, mais en fait, ça fait 20 ans bientôt, exactement 20 ans que je ne fais que ça. Et donc forcément, chaque projet s'enchaîne avec l'autre et on n'a pas fini, on va dire, de jouir d'un projet réalisé qu'il faut déjà penser au prochain dans cet enchaînement-là. Et c'est une espèce de course effrénée dans la construction des projets. Et finalement, cet enchaînement des projets dessine le parcours de ma vie. J'ai l'impression, je pense souvent au peintre Pierre Baldi, qui lui est parti en 2018 à 103 ans, et que jusqu'à ses 101 ans avait plein de projets, et il me disait toujours donc que, enfin, il me démontrait par là que l'enchaînement des projets était vraiment une flamme qui brillait à l'intérieur de lui et qui le faisait vivre, et c'est vraiment ce que je ressens aussi. Et chaque projet qui est entamé, eh bien, engendre le prochain qui arrivera, dont je ne connais pas encore la teneur, mais c'est ces enchaînements-là qui font tenir et qui font vibrer la passion.
Alors cette passion qui vous habite, vous la partagez puisque vous donnez aussi des cours de sculpture, je crois.
Oui, absolument. J'ai mis pas mal d'années avant de franchir le cap, parce que je me sentais pas illégitime initialement, étant donné que je suis autodidacte, donc j'ai commencé seul. Mais c'est vrai que au fil des années, j'ai commencé à donner quelques cours. J'ai dû commencer il y a 7-8 ans à peu près. Et j'ai commencé à donner quelques cours. Et ces cours-là, en fait, me nourrissent aussi. Parce que c'est vraiment permettre à d'autres gens, moi je ne fais que les guider, les accompagner, c'est eux qui font tout le travail et toute la démarche, mais les gens qui ont envie de creuser aussi, la vie les amène à moi souvent, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et donc, je les accompagne du mieux que je peux en donnant les guides qui m'ont aidé à moi. C'est quelque chose, quelque chose de réciproque, parce que ce qui est donné est rendu comme d'habitude, quoi. Et donc, c'est des moments très forts, humains, d'échanges très, très, très précieux.
Revenons donc au cimetière paysager de Jacques-Sous et d'Asparin. Donc vous proposerez une animation originale, une déambulation dans ces cimetières le mardi 24 octobre à 14h30. Si vous deviez expliquer ce qu'est une discoïdale à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous diriez ?
On prendra un petit peu la base, c'est-à-dire que une telle discoïdale servait initialement, avant qu'il y ait des cimetières, à indiquer l'endroit où est enterré un défunt. Et cette forme-là, discoïdale, qui est une forme assez singulière, c'est une forme qui est vraisemblablement associée à des croyances ancestrales, puisqu'on fait référence à des formes comme le disque, le cercle, le pied qui est en trapèze, et les gravures qui se trouvent dessus sont associées souvent avec ce qu'était la personne qui est enterrée. Donc, pour un peuple qui a, par rapport à cette pratique, qui, d'après ce qu'on croit savoir, je dis bien qu'on croit savoir parce que, avec la découverte de la Mendicoulégie, maintenant tout ça est remis en question et c'est tant mieux, mais on croit savoir que ce peuple était analphabète, et donc la symbolique qui est gravée sur ces stèles est associée au défunt, avec ce qu'il était et peut-être un concept de vie, j'en sais rien, ou d'âme, je ne sais pas. Mais donc, je dirais ça, que la stèle discoïdale a cette fonction initiale.
L'association Laouboulou a fait un inventaire de tout ce patrimoine de nos cimetières du Pays Basque. Est-ce que, selon vous, ce patrimoine, il est bien mis en valeur et est-ce qu'il est bien protégé ?
Alors, en effet, on a la chance d'avoir eu des associations comme Laouboulou qui a fait un travail colossal, justement pour rappeler cette valeur-là, cette essence même, comme je parlais tout à l'heure, de base de culturelle. Maintenant, c'est une question délicate qui nécessiterait une longue réflexion, parce que, si vous voulez, la stèle discoïdale et d'autres œuvres, on va dire, funéraires, puisque, comme je disais tout à l'heure, on part vers une évolution aussi, puisque la stèle n'est pas forcément figée à cette forme ronde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'une personne souhaite mettre sur l'endroit où il va reposer sa dernière demeure une stèle ou une autre œuvre qui le représente, en fait, implique une réflexion personnelle de la personne qui a fait ses commandes. Donc ça veut dire qu'une acceptation aussi de parler de la mort finalement, ou de l'après, ou de la vie, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait que ensemble on construit quelque chose qui va le représenter. Et cette dimension-là, c'est une dimension précieuse complexe, mais très précieuse. Et lorsque les gens sont confrontés souvent au décès qui arrive mais subitement, en fait, le phénomène d'un petit peu de précipitation pour parachever, on va dire, un espace où la personne reposera éternellement, fait que cette réflexion-là est passée un peu de côté. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de passer ponctuellement, d'avoir des gens qui viennent me voir et avec qui on échange justement pour savoir comment créer pour elle, cette personne-là, cette forme-là qu'il représentera. Voilà. Et donc, dans cette évolution d'art funéraire, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais dans cette évolution-là, je pense que l'implication de chaque individu est essentielle.
Régis Pochelu, il y a aussi une dimension spirituelle dans la stèle discoïdale, parce que ce sont la plupart du temps des chrétiens qui sont inhumés sous ces stèles discoïdales, en tout cas en Pays Basque. Comment vous interprétez cette dimension spirituelle de la stèle discoïdale?
Alors déjà, je dissocie la dimension spirituelle et la dimension religieuse, qui sont pour moi deux choses différentes. En effet, même si... c'est indéniable que majoritairement ici c'est la religion chrétienne en Pays Basque, mais il n'empêche que les gens qui viennent me voir ne sont pas forcément associés à cette réflexion autour d'une expression de leur religion, mais plutôt une expression de leur spiritualité. Voilà. Et donc cette réflexion-là est vraiment dans la recherche de bases profondes, justement dans l'expression de la stèle.
Un grand merci à vous, Régis Pochelu, d'avoir répondu à nos questions et à quelques jours de la Toussaint, donc de proposer cette déambulation dans deux cimetières paysagers du Pays Basque, à Jacsou et à Sparin. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir ou est-ce qu'il suffit de se présenter au cimetière de Jacsou le 24 octobre, le mardi 24 octobre à 14h30?
Alors en fait, justement, c'est là aussi que je tire mon chapeau aussi des associations telles Urbeki, parce que c'est quelque chose aussi de, s'il y a des acteurs qui œuvrent dans l'évolution de la culture, il faut bien aussi qu'il y ait des passeurs ou des guides de résonance. Et donc cette association en fait le cas, et donc dans leur volonté aussi, c'est de mener cette réflexion, et finalement moi je ne sers que d'excuse à cette réflexion là et donc en effet il n'y a pas à s'inscrire, les gens viennent, c'est totalement ouvert, les gens viennent comme ils veulent, et ça aussi, cette liberté là me paraît très 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 importante.
Merci à vous, Régis Pochelu. Je rappelle que vous êtes sculpteur à Asparin et que votre atelier se trouve au château de Garo à Amendionde, et vous attendez donc tous ceux qui le souhaitent, toutes celles et ceux qui le souhaitent, à venir donc pour cette déambulation dans deux cimetières paysagers, Ajaccio et Asparin. Rendez-vous le mardi 24 octobre à 14h30 au cimetière de Jacsou près du Staritz. Merci beaucoup.
Placer avec une mille.